C'est dimanche matin, vous en avez l'habitude. Nous retrouvons Raymond Gabart pour la mémoire du Couseron. Il va être question de la disparition, il y a de cela 20 ans, du peintre René Gaston Lagorre. Raymond Gabart, bonjour.
Eh bien oui, le pintrou de Seix. Et voilà, oui, parce que quand même, je tiens à ne pas oublier. Et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi. Et même, j'ajouterais qu'on a plaisir, moi particulièrement, à se remémorer tous ces gens d'ici, qui à divers titres d'ailleurs ont fortement marqué les esprits, qui ont fait rayonner aussi bien au-delà de ses frontières notre petit pays du Couseron. Et alors c'est pourquoi cette semaine, auditeurs fidèles, en toute convivialité, bien le bonjour. Et je vous invite à découvrir, peut-être pour certains, à vous rappeler pour beaucoup le parcours atypique, je dirais même, d'un grand artiste avec un grand temps, mais pas que, parce que c'est un personnage hors du commun. Et en ce mois de février 2024, cela fait 20 ans. Oui, 20 ans déjà que nous quittait René Gaston Lagorre, le pintrou de Seix, le poète des couleurs. Et alors, grand ami lui aussi, de Riton Cazenave, disparu il y a quelques jours et dont je vous ai parlé. Et en cela, je pense quand même pouvoir faire plaisir à beaucoup de monde. Car le pintrou n'a laissé que des amis dans tout le Couseron, bien sûr, mais aussi bien au-delà. Et moi, je suis fier, bien modestement, d'avoir été un de ceux-là. D'abord, j'aime et j'apprécie la peinture, cet art auquel je me suis un peu exercé. J'apprécie tous ces artistes peintres, ces gens d'ici, et ils sont nombreux, avec tous un réel talent. C'est pourquoi j'avais été attiré et conquis avec ma femme, un dimanche de juillet 1974, par une exposition de tableaux à la mairie de Seix, avec un peintre dont je ne connaissais que le nom, et qui, je peux le dire, va nous envoûter, avec son regard pétillant, son sourire à peine dissimulé derrière ses moustaches tremblantes et par sa voix chaude, chevrotante et rocailleuse. C'était hier, et pourtant cela fait 50 ans. Cet artiste que nous avons appris à connaître, c'était René Gaston Lagorre. Le hasard de la vie l'a fait naître à New York. En effet, son père, Seixois d'origine, et sa mère, comme beaucoup de Couseronnais de la vallée du Haut-Salat et du Garbet, avaient fait le voyage aux Amériques pour y travailler. Ceci, comme bien sûr, comme beaucoup, et il y a eu les colporteurs, les montreurs d'ours, puis à partir des années 50, une autre vague d'expatriés qui vont s'investir dans les métiers de bouche. C'était, entre parenthèses, le Couseron gastronomique à New York. Une autre formidable histoire. Et précisément, Joseph, le père de René, était cuisinier. Il était cuisinier à New York, à l'hôtel Claridge, et lorsque la guerre éclate, devant accomplir son devoir d'homme de soldat, toute la famille va rentrer en France. Or, son père va être blessé aux mains pendant la guerre, donc, et ne pourra plus exercer son métier. Donc, et puis, il était cuisinier. Donc, ils vont tous se retirer à Seix. Le petit René est déclaré pupille de la nation, mais ne parle que l'américain. Il va être scolarisé à l'école du village, et bien sûr, il va éprouver quelques difficultés à suivre les cours. Mais c'est sans compter sur son instituteur, Jules Palmade, un homme exceptionnel. Ainsi René, sous la houlette de son instituteur, il va être attentif et il va progresser, vite progresser. Et au bout de cet temps, Jules Palmade, très attaché aux arts, va déceler très tôt les prédispositions artistiques du petit René, qui dessine déjà très bien. Il va l'encourager, dans cette voie bien sûr. Son père, devenu modeste agriculteur, n'a que peu de moyens. Alors, son professeur va lui faire obtenir une bourse. et lui permettre ainsi de rentrer à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Il n'a alors que 17 ans. Pour cette première année, donc, c'était en 1930-31, dans la Ville Rose, le jeune homme, certes doué, va rencontrer quand même quelques difficultés financières. Souvent, il va méditer sur les quais de Tunis, non loin des Beaux-Arts, mais aussi bâtir son avenir. « Je me débrouillerai comme je pourrai », dira-t-il plus tard. Il faisait des petits boulots. En ces temps, c'était la règle. Alors, occasionnellement, il sera peintre en bâtiment. Le coup de pinceau était différent, mais cela l'aidait bien. Il sera même livreur ou marchand de journaux devant la gare Matabiau. Son sens artistique, quand même, lui permet aussi de décorer quelques vitrines des grands magasins. Il devient, en devenant aussi, étalagiste. C'était le parcours de l'étudiant de l'époque, au menu ressources. Mais ces petits boulots ne l'empêchaient pas quand même d'aller à la découverte des œuvres des peintres différents dans pas mal de galeries toulousaines. Mais aussi, il s'était attaché à découvrir de grands artistes en visitant les musées de Toulouse, Montauban, Castres ou Albi. Et dès sa deuxième année, donc, aux Beaux-Arts, il reçoit déjà le premier prix en expression. Puis un autre en 1933-34 et également en 35. Pour sa dernière année, le Grand Prix municipal de la ville de Toulouse. Et tout cela avait été quand même décerné par un jury parisien. Non, il n'y avait pas de parti pris. Avec le thème imposé, c'était de la baignade. Alors c'est vrai que son talent va se dévoiler avec une composition aux figures de nus, aux plastiques remarquables, qui lui vaudra ainsi le premier prix en esthétique générale. Cette distinction va lui permettre de décrocher une bourse et bien sûr de pouvoir poursuivre ses études à Paris, à l'École nationale des Beaux-Arts. Le service militaire, suivi de sa mobilisation pour la guerre, vont un peu stopper sa carrière. Cette dernière, il va la reprendre, la paix revenue. Il va vite donc, mais les temps quand même sont difficiles, après-guerre. Mais le hasard va lui faire rencontrer le grand peintre Matisse, qui va vite le juger et lui dira tout simplement... Vous êtes un peintre. René prit cela comme un encouragement, même une confirmation. Et se créant déjà un parcours dans le milieu artistique, il va alors rencontrer des gens de renom. Picabia, Cocteau, Delaunay, mais aussi Picasso. Vous voyez, qui vont bien sûr l'influencer. Et on le retrouvera plus tard. Dans son œuvre, il a été influencé par ses grands peintres. Et quand on analyse son œuvre de l'Agore, au cours des différentes périodes de sa vie, d'ailleurs, il va évoluer par ses thèmes, d'une part, mais aussi dans ses compositions et surtout dans sa façon de peindre. On peut dire qu'au cours de sa longue carrière, il aura abordé tous les styles, avec toutes les techniques. René Lagore, n'est jamais à court d'idées. Il peint à la gouache, il peint à l'huile, peinture à l'huile, au pinceau, à la palette, au couteau. Alors au couteau, c'est une technique où il utilise beaucoup de matière, ce qui a pour effet de créer un relief et de la profondeur. Et tout cela dans des formats les plus divers, jusqu'à de véritables fresques même, comme la décoration de l'église de Saint-Laurent de Save. Avec une immense peinture de près de 80 mètres carrés. L'anecdote, c'est que cette œuvre, commencée en 1939, ne sera terminée que fin août 1940. En effet, la guerre avait interrompu son travail, qu'il avait repris plusieurs fois, mais après une immense joie, il avait dit « Je reprendrai mes pinceaux et ma palette avec la fébrilité d'un amant qui retrouve l'amour de sa vie. » C'est pour vous dire à quel point il était donc dans sa peinture. Paradoxe, lui qui est resté célibataire doit sa carrière à des femmes qui avaient été conquises alors par son travail et qui alors que ce n'était qu'un jeune homme, j'ose dire à peine un jeune artiste. C'était dans les années 30. Il a rencontré Madame Faraguet et Beck et surtout Madame Benquet. Et ce sera son lancement, vu la relation qu'elle devait avoir, ce sera le lancement de sa longue, très longue carrière même. Et ainsi, il fera de remarquables œuvres, également à la mairie de l'île en Dodon, avec une peinture de près de 15 mètres sur 7, et ce sera les quatre saisons. Et ces peintures, d'ailleurs, feront la migration du ministre Bourgès Mounouri, qui avait eu l'occasion, quelques temps plus tard, de découvrir son œuvre. Et alors, à Boussens également, où il avait eu de très grandes commandes. Pourtant, plus tard, j'en ai fait l'expérience, il ne tenait pas à peindre sur commande. Oui, j'en ai fait l'expérience. C'était devenu, certes, un grand artiste, mais affable, simple et modeste. Et donc, il préférait choisir ses sujets suivant ses inspirations. Et c'est ainsi qu'avec lui, nous avons fait, j'ajouterai, de beaux voyages. Car lui-même fut un grand voyageur, un capteur de thèmes, de lumière et de couleurs. De New York au Japon, à Tokyo, jusqu'au Maghreb, au Maroc, en Algérie, bien sûr en France, du côté de la Côte Vermeille, où il allait souvent, la Côte d'Azur, et plus près de nous, bien sûr l'Espagne, et avec l'Andorre, le Val d'Aran, l'Andorre, où ça me remémore les histoires qu'on m'avait racontées, Riton Cazenave, puis ils partaient souvent tous les deux dans toutes ces Pyrénées ariégeoises, mais bien au-delà. Et puis et surtout son Couserans, il adorait son Couserans, qu'il a peint sous toutes ses formes, ce Couserans, comme je dis souvent, blotti au cœur de ces montagnes, avec leurs pics emblématiques. Il a réussi ainsi à figer, à immortaliser, donc, à magnifier même, ses habitants, leur environnement, leurs coutumes, leurs petits métiers. Il va crapahuter, entre parenthèses, un peu partout pour croquer au fusain ses esquisses, le berger, les chasseurs d'isards, les montreurs d'ours, la fabrication du fromage aux estives, mais aussi le cirque, les gitans qui l'ont beaucoup inspiré d'ailleurs, sans oublier les thèmes religieux. Donc on retrouve l'agore dans de nombreux lieux, à l'étranger, beaucoup à Paris, mais épris de la terre de ses ancêtres, il aimait venir tous les ans. « J'ai deux amours », avait-il dit, avoué, « Paris et le Couserans ». Et c'est ainsi que durant près de 60 ans, tous les étés, fidèle à ses racines, il investissait avec ses œuvres la mairie du coquet village de Seix pour le plus grand plaisir de ses amis amateurs. Seix, où il avait gardé son pied-à-terre, une toute petite maison située dans une ruelle où il avait plaisir d'y accueillir, toujours avec le sourire, c'est vrai, un air un peu malicieux. C'était un rituel pour les intimes, et ils étaient nombreux. Parfois, on pouvait le suivre jusqu'au deuxième étage, sous le toit où se trouvait son atelier. Son atelier éclairé par une petite fenêtre de toit. Car c'était un infatigable travailleur. Il avait toujours l'œil vif, malgré son air pensif, une inspiration constante et un beau coup de pinceau, comme on dit, avec lequel il allait créer à partir de savants mélanges de couleurs, des nuances qui n'appartiennent qu'à lui, et qui reflètent d'ailleurs son éternelle jeunesse. C'est certainement sa sensibilité, sa délicatesse aussi, sans parler de sa modestie, qui ont contribué à attirer l'attention d'un très large public, sans jamais se lasser de l'agore, de ses tableaux. C'était sa famille, les tableaux. Il avait plaisir d'en parler, Et beaucoup de ceux qui l'ont connu, d'ailleurs, ont en mémoire ses commentaires, ses explications, avec sa voix chevrotante et captivante à la fois. C'est vrai qu'il vous, vous décrivait un tableau comme il l'avait vécu pour le peindre, et c'était une véritable poésie et un enchantement de l'écouter. Et alors, si en parcourant son œuvre dans le temps, on constate qu'énormément de thèmes, on les retrouve, je pourrais dire que les thèmes sont cycliques, malgré la diversité, donc, avec des nuances bien sûr différentes suivant les périodes, on y retrouve des influences variées aussi, l'impressionnisme, fauvisme ou encore cubisme. Et précisément à ce sujet, René Lagor, longtemps connu et reconnu comme peintre figuratif, avait au plus profond de lui cette envie de créer son style, une autre peinture, une œuvre abstraite, pour d'abord se faire plaisir peut-être, et ce nouveau style a émergé, on peut dire, plutôt tardivement, vers les années 1966. Cette peinture, par contre, qui avait été adoptée dans certaines galeries parisiennes, mais aussi à New York. C'était de l'abstrait dans son fameux Z. Le Z qu'il décrit comme, avec conviction en plus, comme l'éclair. Le Z est une image de la vie, un éclair. C'est de la vie, de sa brièveté, éphémère. C'est un mot qu'il employait souvent. C'était éphémère. Mais, disons, il le faisait avec tellement de plaisir. Cette théorie du Z, on peut dire que c'est une fin en soi. Avec cette dernière lettre de l'alphabet, longtemps son jardin secret, et qu'il a mis un certain temps quand même à divulguer, de crainte que ses admirateurs, ses clients, ses amis habitués au figuratif se sentent un peu perdus. Cette peinture, qui reflétait bien sûr son dynamisme et sa jeunesse, et qu'il ne signait pas d'ailleurs. C'est des rares tableaux qu'il ne signait pas. Et c'était l'aboutissement, donc, on peut dire, de son parcours. Mais au fait, qu'en est-il de son nom? Son nom qui fait de prénom, dont il signera ses premiers tableaux, c'était René Gaston. Ensuite, il a signé Lagor. Dans tout cela, connaissez-vous sa légende? Le Pintrou avait confié, je vous cite, « Les bergers, c'est mon amour de jeunesse. J'ai toujours affectionné les balades en montagne, en Andorre, au Val d'Aran, bien sûr le Couserans avec son seigneur, le Montvalier. Et il se souvient, quand il l'accompagnait souvent, très souvent même son père, qui portait toujours le béret, ce qui lui avait valu par ses amis bergers espagnols, puisqu'il côtoyait très, très souvent les Espagnols, le surnom de la gorra, la coiffe, entre parenthèses. Et ainsi, ils interpellaient à chaque rencontre en montagne son père, « Saludo, buenos días, la gorra !» Et ce fait a marqué les esprits du petit René. René Gaston Lagor, donc, et bien plus tard, donc, il va en faire son nom. Et il signera ses œuvres, comme je vous ai dit, René Gaston Lagor, puis G. Lagor, ou Lagor tout court. Et c'est, paraît-il, ce qu'il a raconté un jour, il y a très longtemps, notre artiste, et même si ce n'est qu'une légende. Eh bien, moi, je la garde, cette légende. Ce sera la part d'un petit mystère, en considérant quand même que même si j'ai un peu connu, enfin je l'ai quand même relativement bien connu, eh bien malgré sa disparition, il reste présent dans ma mémoire comme dans celle de beaucoup d'autres. Et moi, je me remémore souvent cette rencontre plus intime lors d'une remarquable exposition qui lui avait été consacrée donc, dans le cadre superbe des caves du Palais des Vicomtes à Saint-Girons, où nous avions pu dialoguer et j'avais décelé en lui un regret. le regret de ne pas avoir suffisamment capté l'attention des dirigeants sexois. Pourquoi ? Parce que malgré l'intérêt qu'on lui portait alors, de son vivant, il aurait souhaité que soit envisagée la création d'un petit musée à partir d'un don de beaucoup de ses œuvres. Personne, alors, n'a osé prendre la décision. Et moi, je sais, parce qu'il me l'avait laissé comprendre, à d'autres aussi, qu'il en avait été affecté. Mais le Pintrou vit toujours dans beaucoup de mémoires. Salut à toi, l'artiste. Voilà, un petit hommage après sa disparition il y a déjà 20 ans. C'est-à-dire qu'il reste toujours présent parmi nos autres couronnés, mais bien au-delà. Je vous remercie. Bonne semaine.